Pluriel Gay, une émission présentée par Gérald.
C'est en train de dire, il n'y a pas de caméra, j'essaie de rectifier le maquillage, mais on s'en fout finalement, on est à la radio. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci Bernard, merci Boris d'être là présent en régie. Voilà, mais qu'est-ce qu'il
bonsoir
nous
fait bonsoir à toutes, bonsoir à tout le monde.
Et bonne
soirée. Merci, là. On est là.
On est fidèle au poste.
J'ai eu un moment de solitude quand même. Est-ce qu'il m'écoute au moins? Donc ce soir, pour la millième émission de Radio Pluriel, de Pluriel Gay sur Radio Pluriel, je retrouve Tanguy Dufournet à mes côtés. Tanguy qui a souvent été invité à l'émission, qui a participé, qui a fait des chroniques, etc. Que nous n'avions pas vu depuis longtemps, mais c'est un homme fort occupé.
Absolument, bah, en thèse, enseignant, donc bien occupé. Et puis en plus, membre d'une association. Donc,
voilà.
Dont on parlera ce soir.
Et bah, c'est aussi pour ça que tu es là. On va parler d'une association et aussi d'une conférence débat qui va avoir lieu. Alors je l'ai annoncé déjà sur en teaser de l'émission. Conférence débat s'appelle Homonationalisme et racisme chez les LGBT. Mais on y reviendra. Ensuite, tu n'es pas venu seul, Tanguy. Tu es venu accompagné. Alors présente-nous tes accompagnateurs.
Effectivement, alors ces deux intervenants qui interviendront durant la conférence ce vendredi de 18h à 20h à l'Université Lyon 2 sur les quais. Donc on a Zach qui interviendra sur la question des homosexuels de culture arabo-musulmane. Et Louise qui interviendra sur les discriminés discriminants. Voilà, mais puis ils parleront eux-mêmes très bien, j'en suis sûr, de leur sujet.
D'accord. Eh bien, on verra ça avec eux. On va essayer d'aborder un peu le sujet, justement, à travers déjà cette conférence débat. Alors, explique-nous, Tanguy, qu'est-ce qui va se passer? C'est une conférence qui doit avoir lieu vendredi soir et c'est organisé par une association, plusieurs associations. Alors, est-ce qu'on peut les citer?
Bien sûr, absolument. C'est organisé par une association, les Invisibles de Stonewall, qui est une association toute jeune, parce qu'elle a même pas un an.
Ouais.
Ça a été une association étudiante qui s'est créée dans la volonté de travailler à la croisée de différents critères de discrimination.
D'accord, les Invisibles de Stonewall.
Voilà, c'est une association LGBT+, transféministe, qui souhaite parler également de racisme, parler d'andiphobie, parler de sexisme, etc. Et qui donc aborde tout un tas de critères et qui souhaite les travailler ensemble. Et du coup, dans ce cadre-là, on a pensé une conférence débat sur l'homonationalisme et le racisme chez les LGBT. Voilà.
D'accord.
Et c'est comme ça que cette idée a émergé et que ça donne lieu dans le cadre de la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie.
Voilà.
D'une conférence
débat. Quelle journée, c'était comme toutes les années, le 17 mai.
Absolument.
C'était hier. Alors, moi je pense que, enfin, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est le terme homonationalisme. Ça doit aussi questionner peut-être pas mal de gens, parce que qu'est-ce qu'on entend par homonationalisme finalement?
Alors, en fait, l'homonationalisme, c'est un courant assez récent qui s'est vraiment développé à partir des attentats du 11 septembre. Où l'Occident s'est construit une identité de liberté d'égalité par rapport aux normes sexuelles, ce qu'on appelle la démocratie sexuelle, c'est-à-dire que nous, en Occident, les Blancs, on protège nos femmes, on est pour l'égalité homme-femme, on est pour l'égalité avec les homosexuels, etc., on leur reconnaît des droits, etc., alors que dans les autres pays, les pays de culture arabo-musulmane, et ben dans ces pays-là, au contraire, on maltraite les homosexuels, on bafoue les femmes, etc. Et du coup, la sexualité, le sexe devient un enjeu de civilisation qui va permettre de raciser, d'ethniciser des personnes et de construire un « eux » et un « nous » avec à la fois bah, ces étrangers-là qui peuvent pas être compatibles avec nos valeurs et nous qui sont un peu dans des modes et dans des logiques très colonisatrices et paternalistes où bah, on prêche la bonne parole et on apporte la vérité telle qu'elle est et telle qu'elle devrait être appliquée.
Et donc, quand on entend homonationalisme, on peut supposer que les porteurs aussi de... Oui, nous parlons plus près du micro, mon bon Bernard. Donc, Bernard intervient dans les cas. Ça me surprend toujours. Hein, c'est toujours un petit peu... Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, en fait, homonationalisme, c'est... qui en sont les porteurs? Est-ce que, par exemple, les LGBT... Et peut-être les gays, les lesbiennes, plus que les T, je ne sais pas. puisque c'est plutôt le terme homo qui apparaît, sont les porteurs aussi de cette, comment appeler ça, cette théorie, je dirais.
De cette idéologie.
De cette idéologie. Donc est-ce qu'ils la récupèrent? Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce que ça pourrait, par exemple, s'inscrire dans le cadre de, global de ce qu'on appelait, ce qu'on appelle à tort ou à raison le choc des civilisations, qui est voulu par certains?
Absolument. Mmh. Mais ça rentre dans ces logiques-là. C'est-à-dire qu'effectivement, la société est traversée par des logiques racistes, islamophobes, qui construisent un certain nombre de discours, dont le discours, on en avait débattu, je me rappelle, dans cette émission du choc des civilisations. Et très clairement, on va essayer de récupérer d'autres minorités pour liguer les minorités les unes contre les autres. Alors c'est d'abord une volonté politique, un jeu politique avec une mise en concurrence des droits. On va donner le mariage pour tous, mais on va pas donner le droit de vote aux étrangers. On va mettre en concurrence ces luttes déjà à travers une politique des droits, d'égalité des droits. C'est pour ça aussi qu'aux Invisibles de Stonewall, nous, l'égalité des droits, effectivement, on trouve ça important, mais ce qu'on veut réellement, ce qu'on veut, c'est l'égalité réelle. Ce qui est un peu différent. C'est-à-dire qu'on peut pouvoir se marier, mais c'est autre chose de le pouvoir réellement dans sa vie de tous les jours. Ça implique un certain nombre de choses. Bref, l'idée, c'est que c'est effectivement déjà des discours politiques par rapport à l'homo-nationalisme. Ensuite, c'est récupéré par certaines associations qui vont se devenir internationales, etc., avec le comité IDAO, par exemple, ce genre de choses, ou même nationales, et qui vont dicter des espèces de grandes directives. Ben voilà quelles sont nos revendications, et qui vont parler, en fait, au nom de certaines minorités, quitte à en invisibiliser d'autres. Et c'est aussi pour ça qu'on s'appelle les Invisibles de Stonewall. Parce que, effectivement, les LGBT racisés, y a pas légion, ils n'existent pas trop dans le milieu associatif, et ils sont pas là. Et donc, du coup, sans s'en rendre compte, sans le vouloir, on va produire un discours très ethnocentrique, très centré sur nous et notre culture judéo-chrétienne de race blanche, pour reprendre les propos de Morano, mais sans le vouloir. Même de manière inconsciente, mais parce qu'on est entre nous, on est entre eux-mêmes, et on va produire du même. Et l'idée, justement, c'est peut-être d'essayer de sortir de ces logiques-là. Et donc, on pose la question, une question qui va certainement en fâcher certains, pas grave, mais on la pose, et on la débat, et on en discute, et puis on verra par la suite quelle action on va mettre en œuvre.
Alors, pour résumer, c'est une idéologie politique, en fait, qui tendrait à cloisonner, finalement, les débats, les choses qui seraient en opposition à ce qu'on appelle la convergence des luttes, si je comprends bien. Par exemple, on a beaucoup parlé à une époque de la convergence des luttes, dans les années 70 notamment, et là on est plutôt en opposition.
Absolument.
À cette idée de convergence des luttes.
Absolument, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire
et cette idéologie est une idéologie politique, d'après toi, c'est politique.
C'est une idéologie politique, mmh. Effectivement. C'est-à-dire qu'on règne toujours mieux quand on divise. Ouais. Voilà.
Alors, moi, ça me fait penser, évidemment, sur un plan tout à fait concret, à la présence toujours très mise en avant, finalement, de gays au Front National, par exemple.
Absolument.
C'est lié pour toi.
C'est lié, et ça fait partie de ce discours-là. C'est-à-dire que... mais d'ailleurs, toutes les droites conservatrices des autres pays européens trouvent qu'on a la droite la plus stupide d'Europe. C'est-à-dire à s'opposer pour le mariage pour tous, là où au contraire tous les autres ont compris qu'il fallait soutenir le mariage pour tous pour pouvoir être islamophobe encore plus, il y a des discours là. Marine Le Pen, elle l'a très bien compris. Elle en joue. Elle a un discours plus tolérant, plus ouvert sur les questions liées à l'homosexualité que son père, et elle en joue pourquoi ? Parce que finalement, y a un agresseur, et que l'agresseur, c'est toujours l'homme arabe étranger, violent, qui va venir stigmatiser l'homosexuel blanc qui n'a rien demandé à personne. Mmh. Voilà. Et ça, elle s'est très bien jouée sur ces représentations-là. Donc oui, effectivement, Marine Le Pen a très bien compris les ressorts idéologiques de l'homonationalisme, et elle l'utilise parfaitement.
Oui. Et donc, elle a cet homonationalisme, donc, trouve un écho dans la communauté LGBT, selon toi.
Oui. Ouais. C'est pas pour rien que 7 ans après Homo Ghetto ou Un Homo dans la Cité, des livres qui sont sortis... il y a 7 ans déjà, il y a un livre qui s'appelle Rosemarine, où on découvre que les homosexuels ont une certaine proportion à voter Front National, Alors on ne sait pas trop si c'est autant ou un peu plus que les autres, mais voilà, il y a un vote Front National chez les LGBT, et ça pose question, et ça inquiète, et c'est 7 ans après que... Voilà. Mais déjà, il y a 7 ans, le discours était dérangeant. Parce qu'il y a 7 ans, quand on est assorti Homo Ghetto et Un Homo dans la Cité, on avait un discours sur les banlieues, qui était un discours qui disait... Ah oui, mais ils sont vraiment courageux, ces homosexuels qui vivent en banlieue, parce que c'est des lieux extrêmement sauvages, de violence inouïe, on n'a pas ça dans les villes, etc. Et il y avait déjà cette espèce de racialisation, de différenciation entre eux et nous, où on faisait jouer la ville contre la banlieue, etc. Et on victimisait finalement la figure de l'homosexuel maghrébin pour montrer aussi que tous les autres dans cette communauté-là étaient potentiellement violents et agressifs.
Alors, tu fais référence à un ouvrage, je ne sais plus lequel des deux, par contre, qui a été écrit notamment par Brahim Naït Balk,
oui,
qui est mon collègue animateur d'une émission équivalente à Paris, que je connais bien d'ailleurs, Brahim. L'émission aussi. Et du coup, c'est un beurre, donc quelqu'un issu des quartiers, qui lui-même écrit un livre qui est très à charge, effectivement, par rapport à la culture, je dirais carrément, islamo-arabe ou maghrébine.
Absolument.
Voilà.
Alors, c'est un témoignage.
Avec une sorte de... Dans ce livre, il y a une sorte de... Il n'y a pas d'issue de secours. Soit on sort de la communauté islamo-arabe pour vivre. Voilà, d'après lui, c'est pas possible de vivre, être homosexuel dans le cadre de la culture arabe, musulmane, etc. Et Zach, peut-être, a un avis là-dessus. Tu l'as lu, le livre de Brahim, donc Naït Balk. Je sais pas lequel des deux c'est, par contre, je me souviens plus du titre.
C'est Un homo dans la cité.
D'accord.
Alors non, j'ai pas lu le livre de Brahim, Naït Balk, parce que je voulais vraiment partir neutre.
D'accord.
Et pas être influencé par les propos de certains auteurs.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'interpelle, toi, par exemple, dans le discours de Tanguy par rapport à l'homonationalisme ? Est-ce que tu adhères déjà à ce discours ?
Oui, totalement. Totalement d'accord avec lui, à 100%.
D'accord. Et quelles conséquences ça peut avoir, selon toi, dans la culture, enfin la culture, dans les sociétés, je dirais, arabes, par exemple, en devenir, je dirais. On parle beaucoup, par exemple, c'est vrai, et on met en avant énormément... l'homophobie, donc légale des pays musulmans en général. Et c'est vrai que les pays musulmans ne sont pas les seuls, moi je le répète régulièrement, à avoir des lois homophobes. Mais il apparaît toujours que lorsqu'on regarde une carte du monde, on voit en Afrique particulièrement, mais pas que, hein, je répète, en Afrique musulmane, qu'on a les pays les plus répressifs vis-à-vis de l'homosexualité, alors même jusqu'à des peines, condamnation à mort.
Oui, totalement. C'est pour ça qu'en fait...
C'est une législation récente, non ? Je sais pas si tu es au courant, parce que... La législation anti-homosexuelle dans les pays musulmans,
oui,
est peut-être récente aussi, je sais pas.
Non, pas vraiment.
Pas vraiment ?
Non. C'est pour ça en fait qu'on s'est intéressé à ce sujet, puisqu'on sait très bien que dans ces pays de culture arabo-musulmane, il est presque impossible de vivre son homosexualité. Et donc on s'est intéressé à ce sujet, on s'est dit, qu'en est-il en France ? Les personnes issues de familles de culture arabo-musulmane, donc qui sont des familles émigrées, comment ces personnes homosexuelles font pour vivre leur homosexualité ? Donc on a émis une première hypothèse qu'il est impossible en fait de vivre son homosexualité quand on est issu d'une famille de culture arabo-musulmane, si l'on considère que vivre son homosexualité librement, c'est faire son coming out. Voilà. Mais on en parlera à la conférence de vendredi.
Ah oui. Donc l'association Les Invisibles de Stonewall, je reviens, organise une conférence à ce sujet. Vas-y.
Et si je peux juste rajouter une chose, il y a une étudiante doctorante et collègue du coup qui travaille quant à elle sur les lesbiennes dans le milieu... dans les familles de culture arabo-musulmane et du coup ce qu'elle démontre c'est qu'effectivement il n'y a pas le coming out, c'est pas une pratique qui est récurrente, qui existe, mais c'est pas une pratique récurrente. Par contre il y a d'autres stratégies qui se mettent en œuvre et c'est, tout le monde le sait mais personne n'en parle. C'est-à-dire c'est pas ta petite copine qui vient manger à la maison, c'est ta colocataire par exemple. Mais les personnes peuvent trouver finalement une forme de contrat social là-dedans. Il faut savoir que le coming out, ça a été une force, c'est un outil politique d'abord, qui a été utilisé à une certaine période de l'histoire. Dans des pays occidentaux, ce n'est pas la seule forme d'émancipation qui existe.
Particulièrement dans les pays anglo-saxons d'ailleurs.
C'est, absolument.
À la base, ça vient des États-Unis, le coming out, utilisé comme arme politique, effectivement. Alors, selon vous, je dirais le coming out, c'est une vision de l'Occident.
Oui.
Qu'on cherche à imposer. Finalement, il n'y a pas d'alternative. Soit vous êtes pour, soit vous êtes contre l'homosexualité.
C'est ça. C'est ça. En fait, ce qui est problématique avec le coming out, c'est un peu, je vais faire le parallèle, c'est un peu avec, comme avec les femmes voilées. C'est-à-dire que pour un certain féminisme, être une femme émancipée, c'est ôter son voile. Or, il y a des femmes qui peuvent être totalement émancipées en ayant et en portant et en revendiquant le port du voile. Le coming out, c'est pareil. Il y a des homosexuels qui vont, ou des LGBT militants qui vont dire être émancipé en tant qu'homosexuel, c'est faire son coming out, c'est s'assumer, etc. C'est une manière un peu réductrice de voir les choses. Je pense qu'il y a beaucoup de façons de se sentir émancipé. Déjà, c'est pas les autres qui vont nous émanciper pour nous. On s'émancipe soi-même. Donc, tel qu'on souhaite le faire pour nous. Et c'est à personne d'autre de nous dire comment on le fait. Et j'avais une autre idée. Et par rapport aux pays, effectivement, qui condamnent l'homosexualité, je pense que ce qu'on oublie surtout de dire, c'est que, et on a un partenariat d'ailleurs avec une association étudiante tunisienne, les Invisibles de Stonewall, Shams, qui, donc la Tunisie, qui condamne encore à 3 ans de prison l'homosexualité. Eh bien, on oublie de dire qu'effectivement, dans ces pays-là, il y a des homosexuels qui s'organisent. Il y a des personnes homosexuelles, musulmanes, qui revendiquent l'égalité des droits, etc. Et on oublie aussi de dire que si ces pays sont aussi marquent ce retard qu'on avait aussi il y a quelques années, par rapport à l'égalité homme-femme, par rapport à l'égalité sexuelle, c'est aussi parce qu'il y a eu une intervention des pays occidentaux dans ces pays-là, avec le colonialisme, qui a marqué un coup de frein à l'évolution de ces pays-là. Et que les printemps arabes, qui ont été quand même des moments de révolte et d'évolution idéologique dans les mœurs, qu'on a eu nous avec 68, etc., concrètement, on en serait au même stade que s'il n'y avait pas eu cette période-là qu'est le colonialisme. Voilà. Et ça, on oublie un peu de le dire. Donc on oublie un peu de reconnaître notre responsabilité là-dedans.
D'accord. Donc pour vous tous, l'homonationalisme, c'est une forme de néocolonialisme aussi. C'est une nouvelle façon d'imposer notre point de vue, finalement. Quand je parlais des pays en devenir, je pensais évidemment à la Tunisie, justement. Des pays arabes en devenir, en guillemets. Parce que la culture arabe est ancestrale. Mais je veux dire, en devenir, c'est la Tunisie qui a vécu des bouleversements politiques importants. Et les plus aboutis, je dirais. Au Maghreb, en tout cas, dans beaucoup de pays musulmans. Donc...
Je pense que c'est une bonne manière de le dire. C'est-à-dire que c'est pas étonnant.
C'est du néocolonialisme.
Oui. Et c'est peut-être pas étonnant que dans certains pays. Alors, ça, c'est qu'une hypothèse de recherche.
Néocolonialisme, ça peut être aussi le tourisme sexuel au Maroc. Beaucoup l'ont dit.
Comment dire
Effectivement. On sait que beaucoup d'hommes vont chercher des hommes au Maghreb, et notamment au Maroc. C'est même une. Mais encore une fois, officiellement, mais officieusement, on sait que c'est très courant. Depuis les années 70,
effectivement, je pense que c'est une chose qu'on retrouve même dans les logiques au sein de la communauté LGBT française, sans même aller au Maroc. C'est-à-dire que c'est un peu le beurre qu'on a sur les catégories de porno, quoi. C'est-à-dire que on va érotiser un corps, on va en faire un objet, on va en faire un fétiche. Et c'est un peu ce que décrivait Frantz Fanon dans Peau noire, masque blanc, où effectivement, ce que on va faire de l'autre un objet, et puis on va consommer du beurre, parce qu'on le reconnaît pas comme individu, on le reconnaît comme objet de fantasme, comme objet et pas plus.
En revanche. Pour revenir à la culture arabo-musulmane, donc, est-ce que c'est pas aussi un petit peu réducteur de réduire à ça? Parce que tu disais, il y a quelques années, moi, ça me fait penser à des pays très catholiques comme l'Italie, par exemple, l'Italie du Sud, qui vivait exactement la même chose il y a quelques années, où il existe encore d'ailleurs une différence entre le Nord et le Nord qui est plus plus influencé par l'Europe, par l'Occident, et le Sud qui est plus culture méditerranéenne, on dira, où l'homosexualité était très courante, mais ne devait jamais être dite, en fait. Le mot n'existait même pas.
Oui, oui, je suis totalement d'accord.
Donc mais... c'est plus un côté de culture méditerranéenne globalement, l'Italie étant catholique.
On peut même dire que c'est un rapport avec la religion.
Avec la religion.
Oui, totalement. Mmh. Oui, oui. D'ailleurs, dans la langue arabe, le mot homosexuel n'existait pas jusqu'au début, jusqu'à la moitié du 19e siècle. Qu'on a commencé à parler d'homosexualité parce qu'elle était reconnue comme une maladie psychiatrique. Voilà. Mais sinon, ça n'existait pas avant.
Ouais.
Voilà. Mais c'est dans toutes les religions comme ça.
Voilà. Par contre, on retrouve la même condamnation religieuse. Alors, c'est sujet à interprétation, mais on parle souvent au peuple de Lot, évidemment, qu'on retrouve dans la Bible et aussi dans le Coran. C'est la même chose d'ailleurs.
Hein. Totalement, oui, totalement.
Voilà. Oui. Et là, on a beaucoup parlé, dans le cadre de la condamnation religieuse, par contre, on a beaucoup parlé. Donc, d'une condamnation de l'homosexualité qu'on trouve donc dans la Bible, mais aussi dans le Coran.
Oui, mais d'ailleurs, c'est un sujet sur lequel on ne peut pas être tranché.
Ouais. D'ailleurs, c'est sujet à beaucoup d'interprétations,
oui,
en fonction des chapelles aussi. C'est
aussi
le dire.
Exactement, voilà, totalement.
Bon, alors on reviendra après sur la conférence en elle-même. Et puis sur tout ce que l'homonationalisme donc peut comporter comme phase raciste finalement, hein, puisque qui dit homonationalisme dit on sépare les gens et il y a d'un côté les bons, de l'autre les mauvais, donc voilà, hein, c'est tout à fait contraire à cette convergence des luttes dont nous avons évoqué tout à l'heure. En attendant, nous allons écouter Freddie Mercury en live. Alors deux morceaux qui vont suivre, mais ils sont très courts. C'est un live d'un concert de 1979. Ça nous permet de réentendre la vraie voix de Freddie Mercury. Exceptionnel.
pluriel, 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 pluriel.
Yeah. Bon, mon bon Bernard, tu as envoyé la musique un peu vite, j'ai pas le temps de présenter notre invité. Du coup, avant la musique, je voulais faire le teaser, tu sais, pour que les gens restent accrochés à l'émission. Donc, nous devons avoir Julie Grisolia. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'elle est là?
Oui, non, vous vous trompez pas, c'est ça.
D'accord.
C'est moi.
Alors, Julie, je vous ai demandé d'intervenir à l'émission et je vous en remercie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et bonsoir, pour commencer. Donc, dans
bonsoir,
le cadre...
bonsoir.
Donc, dans le cadre du festival Transposition, qui se déroule à Annecy depuis hier et jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à la fin de la semaine. Jusqu'au 28 mai,
c'est
d'accord.
Ça, jusqu'au 28 mai.
D'accord. Ouais. Donc, c'est sur une durée assez longue. Ça se passe à Annecy. Ça se passe dans un lieu unique où il y a plusieurs lieux?
Non, on a quatre salles partenaires, trois cinémas. Donc, un à Annecy même, la MJC Nouvelle, et deux autres. Donc, la Turbine à Cran-Gevrier, où on est ce soir d'ailleurs.
D'accord.
Et l'auditorium de Sénaux. Et ensuite, on a une salle associative qui s'appelle l'Alter Local. Et enfin, donc, la soirée de clôture a lieu au Brise-Glace.
D'accord. Alors, si je comprends bien, c'est donc un festival, on va dire, pluridisciplinaire. Donc, vous avez parlé de cinéma, mais bon, il n'y a pas que du cinéma.
Oui. Si. Alors, on a surtout du cinéma.
Ouais.
On a, donc, c'est d'abord un festival de films.
Ouais.
Et comme on avait envie d'un événement qui soit culturel et festif, on a une soirée de clôture, donc, où là, on aura des concerts. Donc, Mantilka et Louise Rome en concert et deux DJ qui viendront aussi pour clôturer ce festival.
Et ce festival, c'est la première édition ou vous avez déjà, il y a déjà eu d'autres festivals avant, quoi, Transposition?
Non, non. C'est sa toute première
édition.
C'est
la toute première fois.
C'est la toute première édition qui a ouvert ses portes
c'est
hier.
C'est le baptême, donc. D'accord.
Bon. C'est ça, exactement.
Et l'ouverture, ça s'est bien passé? Le public
très,
a répondu
bien,
présent
ouais, oui, 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 le public a répondu présent et là, ben, je suis sortie de la salle de la Turbine pour vous répondre et le public est vraiment très présent, donc on est très, très heureux.
D'accord. Alors, le festival Transposition, ça se passe, c'est quel axe vous avez pour ce festival? Quel est votre
Alors,
fil
on
conducteur
a on a organisé la programmation en plusieurs thématiques. Notre fil conducteur, c'était la question de la visibilité des communautés minorisées en raison du genre ou de l'orientation sexuelle. Et notre idée, c'était de montrer qu'en fait, certains films qui restent confidentiels peuvent être vus et méritent d'être vus. Et donc, bon, ça fait, c'est assez dense comme problématique, comme questionnement. Et du coup, on a organisé en thématique avec différentes, voilà, plutôt quelque chose consacré aux gays, enfin, aux films qui montrent des couples d'hommes, une soirée plutôt consacrée aux filles, des soirées consacrées aux thématiques de genre, alors notamment hein, la question de la transidentité, mais aussi hein, s'interroger sur la binarité, la non-binarité, la construction sociale des gens. Et enfin, donc aussi, on a souhaité programmer des films qui permettent de donner de la visibilité, donc plutôt des films grand public. Et par exemple, on a Carole, Free Love, dans ce cadre-là.
Et vous organisez aussi des conférences, des débats, comme c'est habituel dans les festivals, où le film est simplement présenté?
Oui. Non, 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 tout à fait. Par exemple, ce soir, donc, nous avons Geoffrey Coué qui est présent là,
oui.
Donc l'acteur principal de Théo et Hugo dans le même bateau.
Que nous avons interviewé à la radio aussi, d'ailleurs.
Oui, bah, je viens d'en discuter avec lui.
Ouais.
Et donc, il va intervenir pour présenter le film. Demain, par exemple, nous avons une soirée qui est consacrée à l'écriture de l'histoire des luttes LGBT. Et dans ce cadre-là, on reçoit Stéphane Gérard, le réalisateur de Rien n'oblige à répéter l'histoire, et des associations également. Et donc l'asso lyonnaise Fris qui sera là pour discuter avec nous de cette question-là.
Ouais.
On a aussi vendredi, par exemple, la projection de la sociologue Edourson. Et là aussi, hein, on aura des intervenants associatifs, notamment le groupe LGBT du CERN en Suisse, à Genève.
Oui, d'accord. Mais c'est très bien. Excellente initiative.
Ben merci, merci.
Qu'est-ce que pourrions-nous rajouter, si ce n'est que pour avoir le programme complet, on peut utiliser les moyens de communication modernes dont nous disposons
oui,
désormais.
Tout à fait. Oui,
internet.
Donc, on a un site internet, www.festivaltransposition.com, et on nous trouve assez facilement sur Facebook, Transposition, et sur Twitter aussi, on est aussi sur Instagram, on est assez présent sur les réseaux sociaux, donc il ne faut pas hésiter.
D'accord. Donc on rappelle les dates du festival, ça a commencé déjà hier, ça continue jusqu'au 28 mai.
Jusqu'au 28 mai, ouais.
D'accord.
C'est ça.
Donc, c'est un festival qui a une durée longue, une dizaine de jours.
Oui, exactement. Ouais.
D'accord.
Oui, oui.
Très bien. Donc c'est à Annecy. Annecy, c'est à côté de Lyon, hein. C'est pas très loin.
Oui, c'est pas très loin. Voilà. On est à côté.
Il faut aller à Annecy. En plus, c'est une ville magnifique. Donc il faut y aller.
C'est ça, au bord du lac, les montagnes.
Absolument. Et moi, je rajouterai toutes les coordonnées, hein, des sites que vous avez évoqués. Sur la page Facebook de l'émission et sur le site aussi de l'émission pluriel gay.fr. Voilà.
En tout cas, super, merci beaucoup.
Merci Julie d'avoir accepté, hein, de nous parler de votre festival. Longue vie au festival, alors, puisque c'est votre première édition. On vous en souhaite beaucoup d'autres.
Merci beaucoup. Et merci de nous avoir invités.
Avec plaisir. Bon festival et bonne continuation. Merci.
Merci, à bientôt. Au revoir.
Au revoir. Bon, Bernardo, pas de musique. Pas de musique. On n'a pas le temps. On va revenir à nos invités. Donc, c'était Julie Grisolia, hein, Festival Transposition à Annecy. Alors, nous sommes quatre autour de la table. Il y a une fille pour trois mecs. Et la fille n'a pas parlé, mais
évidemment,
on lui disait que c'est normal parce que c'est une fille. Parce qu'on est des phallocrates en réalité.
Exactement.
Voilà. Non, en fait, Louise, tu vas un peu nous parler de toi maintenant.
Oui.
Et surtout de ton travail. Alors, explique-nous un petit peu quel est ton travail, justement, récent, dans le cadre de tes études.
Bah, dans le cadre de mes études et plus particulièrement de la sociologie que Tanguy nous a enseignée. On a pu réaliser des enquêtes comme celle que Zach a fait, et la nôtre, elle s'est portée du coup sur la production de discours et de schémas discriminants par des personnes elles-mêmes discriminées. Et du coup, de là, par exemple, on est parti du fait que, bah, par exemple, les bisexuels sont invisibilisés, voire il y a une production de discours biphobes dans la communauté LGBT. Les trans, les personnes trans, n'en parlons même pas, elles sont complètement invisibilisées. Et donc, partant de ce constat-là, on a voulu s'intéresser plus particulièrement à une association LGBT de Lyon pour voir si effectivement il y avait une reproduction des discours discriminants et du coup, pouvoir en savoir un peu plus. Et par rapport à la conférence, du coup, qui aura lieu vendredi, c'est vrai que on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait une reproduction des discours et des schémas discriminants, et que la hiérarchisation qui était dans la société était la même finalement dans l'association. C'est-à-dire que les personnes qui majoritairement avaient les postes de pouvoir, c'était des hommes blancs, et c'était des gays. Voilà, il y a peu ou voire pas du tout de personnes trans. Les personnes racisées, c'est la même chose. Et du coup, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on a pu noter que y avait une invisibilisation des personnes trans. Et peut-être que c'était parce que les personnes trans ne se sentaient pas mis en valeur et visibilisées dans ces associations-là. Et que du coup, elles n'avaient pas la volonté d'y adhérer.
Alors, je préciserai que chez Pluriel Gay, les trans ont la parole. Hein. Il n'y a pas de souci. On a reçu Florence il n'y a pas longtemps du Jardin d'été avec un immense plaisir. Donc, je suppose que l'association en question, c'est sous l'anonymat. On ne va pas dire son nom.
Y a plusieurs raisons pour lesquelles on ne va pas dire leur nom. Déjà, pour des raisons déontologiques sous couvert d'anonymat. Et puis plus largement, et là je laisserai Tanguy s'exprimer aussi, mais c'est parce que dans le cadre de la conférence notamment, la réflexion que je vais pouvoir apporter par rapport à l'enquête qu'on a menée, j'ai pas envie qu'elle se cible sur une association et des personnes, et que du coup on se dise « Ah, c'est eux qui reproduisent des schémas, ils sont mauvais, et moi tout va bien ». C'est plutôt amener à une réflexion générale, à ce que chacun se questionne sur la position qu'il a, et peut-être les comportements qu'ils peuvent avoir. Et là où, du coup, je laisserai Tanguy s'exprimer, c'est que non seulement ça peut amener à cibler le discours sur une association et du coup à dire c'est seulement eux, et que aussi ça peut se transformer en conflit personnel. Et voilà, je laisserai Tanguy s'expliquer à ce sujet.
Oui, tout à fait. Merci.
Du
coup, non, par rapport à l'association, effectivement, sur l'événement, on a vu passer des questions, des interrogations sur de quelle association il s'agissait, etc. Je crois que Louise a très bien exprimé les raisons pour lesquelles on ne citera pas de nom de structure ni de personne. Après, c'est vrai que c'est pas un secret. J'ai été en conflit avec certaines structures. Non, je ne donnerai pas de nom parce que c'est pas utile ici d'en faire état, surtout sur des ondes FM. Très concrètement, voilà, ça pourrait être commode pour certaines personnes de rabattre finalement le sujet et la thématique de cette conférence débat sur un conflit de personnes, un conflit de structure, etc. Ce n'est pas ça. Il y a eu un parcours légal par ailleurs, parce qu'il y a eu un dépôt de plainte pour des raisons fallacieuses. J'ai été entendu par la police, j'ai apporté des éléments de preuve, etc. Et très factuellement, la plainte a été classée sans suite. Donc voilà, par rapport à ça, moi je sais que je n'ai rien à me reprocher. Et voilà, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de conflit. Et combien même ce serait cette association, ce qui n'est pas du tout avéré, ce qui n'est certainement pas le cas, c'est un projet qui s'est construit à plusieurs personnes, j'ai pas été tout seul, il s'est discuté, il s'est débattu en équipe, et si on avait voulu que je transpose un conflit au niveau associatif, on m'aurait pas laissé faire. Voilà.
D'accord, donc cette conférence débat, organisée par les Invisibles Stonewall, vous intervenez, je dirais, dans le sens où votre travail sert aussi de support à la conférence. Mmh. On est d'accord, que ce soit Zach ou Louise. L'animateur du débat sera
Tanguy,
ici présent. D'accord. Alors, explique-nous quand même comment ça va se passer. C'est entrée libre, je suppose.
Absolument.
Voilà. Tu nous diras, on rappellera l'heure, la date et puis le lieu exact. Et comment ça va se passer? Les gens vont s'installer et il y aura tu espères qu'il y a un dialogue qui va s'établir,
oui,
entre toi.
Pas entre moi, mais entre en tout cas les intervenants.
Et tous les intervenants. Parce que c'est un travail d'équipe, comme on vient de le redire encore une fois.
Je redirai dès le départ de la conférence, il s'agit d'une mise en discussion et pas d'une mise en accusation. Mmh, ça, c'est essentiel. Mmh. Premièrement, alors effectivement, cet événement, il a été organisé en partenariat avec le Centre d'études postcoloniales de Lyon.
D'accord.
Avec la chaire Inégalité et Discrimination qui gère le diplôme, le master Égalité, Inégalité, Discrimination, parce que le parcours Inégalité, Discrimination, d'ailleurs la campagne d'inscription a été lancée, donc si sur la fréquence il y a des licences 3 et des master 1 qui souhaitent s'inscrire à ce diplôme, ils peuvent le faire depuis le 17 mai d'ailleurs.
D'accord.
Voilà, tout un symbole. Et du coup, ils sont invités à le faire. Donc du coup, pendant cette conférence-là, on va accueillir des gens à partir de 17h50. À 18h, on lance parce qu'effectivement, on est dans le cadre de l'université, donc le temps est contraint, on a jusqu'à 20h. Et on a fait en sorte de réduire les interventions à 30 minutes maximum pour laisser jusqu'à bien 30-35 minutes de débat, de discussion. C'est-à-dire que pour le coup, les personnes pourront interagir avec les intervenants et les intervenantes sur la même portion de temps.
Ouais.
Voilà. Et on a fait en sorte que ça puisse se faire parce qu'on imagine bien et on espère bien, et on le voit aussi dans les discussions qu'on a sur l'événement Facebook, parce qu'on a pris le parti de publier des articles, de la documentation au fur et à mesure pour que les gens viennent aussi documenter sur le sujet. Y a des débats, il y a des discussions, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le discours qui est véhiculé, et c'est important qu'on puisse les entendre et qu'il puisse y avoir un débat.
Oui. Voilà, c'est donc pas quelque chose que vous allez asséner, c'est un véritable débat.
Absolument.
De réflexion, etc.
Absolument.
Très bien.
Mais c'est comme ça que se fait la science en sociologie. C'est-à-dire que la sociologie, ça se fait par discussion, par confrontation, parfois par conflit, par contradiction, et on avance ensemble. Et il n'y a pas le point de vue de l'expert, du chercheur, et le point de vue des autres, c'est tous ensemble, autour de la table, à égalité, on construit un savoir, et c'est un peu l'ambition de cette conférence débat, et c'est pour ça aussi qu'elle est portée par la commission recherche de l'association Les Invisibles de Stonewall.
D'accord, donc ça sera intéressant de participer effectivement à cette conférence, dans la mesure où il semblerait qu'effectivement, donc, un certain nombre de personnes LGBT adhèrent à cette idéologie dont nous avons présenté au début de l'émission, le mot nationalisme, dont il découle automatiquement du racisme.
Alors, automatiquement, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, ça produit
ça
du
produit
racisme.
Du racisme.
Voilà. L'un des sujets qui va porter le plus à débat, et on l'a vu d'ailleurs sur la page Facebook, c'est quand on dit, mais quand vous mettez nos arabes sur votre application Grindr, Eh bien, pour vous, c'est un goût sexuel, mais en fait, c'est du racisme. Quand on demande à une personne racisée, effectivement, noir-arabe, comment tu le vis, la personne racisée, première concernée, va vous dire « mais c'est du racisme
ouais. ».
Alors, c'est pas un goût sexuel, c'est du racisme.
D'accord.
Et ça, y a beaucoup de personnes ont beaucoup de mal à l'entendre.
Mmh.
Et pourtant, c'est intéressant, je crois, dans le débat d'amener ça et de voir que même dans les goûts sexuels, il y a finalement une forme d'intégration de normes racistes. Et ça, c'est Céline Beldan du Centre d'études postcoloniales de Lyon qui va intervenir sur cette question-là. Sur la question de la stratification sexuelle, elle va reprendre la stratification de Krafft-Ebing et le nom de son intervention m'échappe à l'instant, c'est très embêtant. Je sais que Gianfranco Rebussini intervient sur le sexe de la nation et donc oui, Céline Beldan, elle, c'est civilisée par la sexualité. Voilà. Et donc il y a le rôle civilisateur de la sexualité qu'on développait au début de cette émission. Et elle va intervenir là-dessus, elle va montrer comment finalement ça a été aussi au service de schémas racistes à un moment donné dans la construction européenne. Voilà.
Très bien, donc Louise évoquait la question trans, et je disais que c'est une question qu'on aborde, compris que les personnes concernées, le plus possible. Et il se trouve qu'il y a un petit caillou dans la mare, si on peut dire, un petit...
Un gravillon, non ?
Un petit gravillon, voilà, qui est intervenu dans un projet de loi plus global, on appelle justice pour le 21e siècle. Voilà, mm-hmm. Donc encore, même le titre peut-être pourrait être sujet à débat entre fous. On ne va pas le faire ici, on n'aura pas le temps. C'est surtout par rapport au contenu d'ailleurs de cette loi, qui est un projet de loi global, hein, qui englobe beaucoup de choses, dont les changements d'état civil, qui devrait être facilité, notamment pour des personnes, par exemple, qui veulent changer de prénom, tout simplement. Mais aussi, un amendement a été produit concernant donc le changement d'identité sexuelle sur les papiers officiels, puisqu'on sait que la jurisprudence, à l'heure actuelle en France, impose un parcours de transition complet qui implique stérilisation, opération de réassignation sexuelle. Or, toutes les personnes ne souhaitent pas subir ce parcours, ne souhaitent pas parcourir cette transition dans ce cadre-là, en tout cas.
Le terme subir était bien choisi.
Oui, parce que dans certains... Là, on peut dire que c'est très restrictif, effectivement, la jurisprudence est très restrictive, et cet amendement, justement, devrait permettre à des personnes qui voudraient changer d'identité sexuelle, donc de le faire sous d'autres conditions, sans passer normalement par ce parcours de transition. Donc, il suffirait de produire des documents particulier concernant, par exemple, le fait que plusieurs personnes vous connaissent vivant sous les avec les habitudes sociales, je dirais, du sexe opposé, etc. Par exemple, que vous subissez des discriminations du fait que vous avez une identité sexuelle sur les papiers officiels qui ne correspond pas à votre identité réelle, à votre identité de genre réelle. Voilà.
Tout à fait. Mais sur le, enfin, si je peux me permettre,
oui, vas-y,
d'intervenir, du coup.
Je sais que tu allais intervenir, Tanguy.
Ouais, voilà, parce que c'est
souvent l'émission, je sais que tu allais intervenir.
ça laisse un goût quand même un peu amer parce que c'est vraiment un gravillon, c'est-à-dire qu'on parcourt quelques centimètres alors qu'en termes de droit des trans, il y a encore des années-lumière à parcourir. Et on fait passer ces quelques centimètres sur ces années-lumière comme une avancée alors que c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que effectivement, ce qui est demandé, c'est que la procédure elle soit déclarative, sans l'intervention d'un médecin. Rien que le fait qu'il y ait un parcours protocolaire, avec une équipe protocolaire qui prenne en charge les personnes trans, c'est problématique, parce que c'est-à-dire que les personnes trans sont niées dans un droit qui est quand même fondamental pour n'importe quel citoyen, qui est celui de choisir son médecin, et elles ne peuvent pas le faire. Enfin, c'est juste hallucinant. Dans les faits, c'est toujours devant la justice, alors que les personnes trans réclament que ça ne soit plus devant le juge ou même devant le procureur. Ils veulent que ça soit fait de manière administrative, simple, etc. Et là, les papiers qu'il faudra fournir seront toujours les mêmes, parce que ça ne change pas. Donc si on tombe sur un médecin qui est chiant, qui dit c'est seulement si vous faites une opération que vous êtes considéré comme trans, et du coup la justice sera la même chose. Alors que concrètement, une personne qui prend des hormones mais qui ne subit pas de transition est une personne trans parce qu'elle se définit comme ça et qu'elle le vit comme ça, et voilà. Et c'est exactement la même chose qu'une personne qui serait allée, qui aurait fait sa transition aussi. C'est-à-dire qu'elle est en parcours de transition. Mmh. Et voilà, c'est tout à fait. Ça pose problème par rapport à ça. Et puis il y a un flou quand même qui est très très problématique, et ça je reprends du communiqué de presse des associations trans et entre autres de Chrysaline, qui est celui sur le motif de refus du procureur. Le procureur refuse d'accorder le changement d'état civil, très bien, sur quel motif, sur quoi il se base pour avoir le droit de refuser. Le fait que ça ne soit pas encadré, ça veut dire que c'est la subjectivité totale d'une personne qui va décider. Et encore une fois, c'est une tierce personne qui va dire à telle personne qui vous êtes. Et ça, c'est insupportable.
Donc, cet amendement ne va pas dans le bon sens, selon toi ?
Il va dans le bon sens. Il avance de quelques centimètres, mais c'est pas ce qui était attendu, c'est pas ce qui était voulu, etc. Mais
Globalement, les associations, les collectifs de personnes trans, transidentitaires, transgenres sont peu convaincus également par cet amendement.
Effectivement, et c'est bien normal. Mais en même temps, du temps que les revendications des personnes trans ne seront pas portées de manière très forte par l'ensemble de la communauté LGBT+, c'est normal que ces revendications ne soient pas entendues. Quand la LGP fait un mot d'ordre où visiblement il faut associer au moins à elle aux questions trans, parce que les questions trans seules sur un mot d'ordre c'est pas trop légitime et que voilà, ou parce qu'on a peur par exemple de se reprendre les réflexions transphobes des commerces en 2009 que la LGP avait subi, ben, en quel cas très bien vous avez peur des réflexions transphobes des commerces en 2009.
Des commerces gays, hein,
en plus.
Précisons.
Et ben dans ce cas, qu'est-ce que ces commerces font dans la marche aujourd'hui?
Ce qui rejoint donc le travail de Louise finalement.
Absolument.
Discrimination à l'intérieur.
Absolument. Et quelque part, ça pose un véritable problème. Moi, j'aurais voulu un mot d'ordre cette année qui soit effectivement centré sur les questions trans, sur les droits des trans, parce qu'il y a une urgence vitale pour les personnes trans aujourd'hui. Et sur la communication qui est faite, elle est délétère. Je vais peut-être pas trop m'étendre, mais quand on voit un bandeau apparaître sur l'événement officiel de la LGP par rapport aux trans, où on voit l'été soutiennent les LGB, les LGB doivent soutenir l'été, alors pourquoi on dissocie déjà? Pourquoi on crée cette espèce de distinction eux, nous? On est une communauté, les trans font partie de notre communauté, c'est historique. C'est même eux qu'ont lancé les premières émeutes, et elles qu'ont lancé les premières émeutes de Stonewall.
Ce que rappelle un peu l'association, le nom de l'association finalement.
Absolument. Et c'est normal qu'on marche à leur côté, qu'on marche avec eux, parce qu'on est une seule et même communauté, et il n'y a pas à rougir d'avoir un mot d'ordre où il n'y aurait que les personnes trans qui soient représentées. Et ça, le jour où certaines associations le comprendront, je pense que là, effectivement, on n'aura plus besoin de faire des marches de nuit parce que le militantisme aura enfin réinvesti les rues et on n'aura pas à faire une technoparade.
Alors c'est vrai que c'est très intéressant parce que tous les courants qui existent dans la communauté, donc que souvent je mets entre guillemets d'ailleurs, comme ça, entre guillemets, je fais le geste mais on ne voit pas, donc entre guillemets, LGBT, on peut parler aussi de beaucoup de choses. On peut parler par exemple on parle beaucoup du virilisme de la communauté gay par exemple. Donc il peut s'associer aussi à de la phallocratie quelque part, avec le rejet des folles par exemple, etc. Mais aussi sur un point social, ni plus ni moins, il y a... moi je pense toujours, quand j'entends parler de... comme vous parlez, moi je pense au déterminisme social qui est dans le film de Fassbinder, j'aime beaucoup, Le droit du plus fort, où lui il parle par contre de la discrimination par l'argent, par le statut social dans la société, qui existe aussi à l'intérieur de la communauté homosexuelle. Et il le dit et le répète dans son film. Son film est basé là-dessus. Puisqu'à la fin, qui était terrible, on apprend que finalement, quelqu'un qui est au bas de l'échelle restera au bas de l'échelle. En gros, c'est ça. Il y a une sorte de déterminisme social qui est terrible. Et dit, même dans le cadre de la communauté gay, homo, ça marche, ça fonctionne, ce déterminisme social. Alors, on l'encontre de ce que certains disent, hein, c'est Bismarck qui disait que l'homosexualité pouvait provoquer un bouleversement de la société parce que toutes les classes étaient confondues, puisque le maître couchait avec son valet. Or, Fassbinder dit non, le maître restera le maître, le valet restera le valet, d'une manière ou d'une autre. Et ça me fait penser, cette réflexion je laisse, que ça me fait penser, ça rejoint un peu le discours que vous dites qui est sur un autre aspect, mais que ce film m'a toujours énormément marqué de Fassbinder. Pas le seul d'ailleurs de Fassbinder. Sur le déterminisme social aussi, c'est très intéressant, dans la communauté gay notamment.
C'est vrai que mon travail, il s'est porté que sur une association, donc je vais pas le généraliser, mais il vient déjà conforter des analyses et des réflexions plus générales qui ont pu être faites. Et c'est vrai qu'il faut savoir, par exemple, là où j'ai fait mon enquête, si on est une femme, si on est racisée, et si en plus de ça, effectivement, on n'a pas un niveau scolaire ou une aisance ou une légitimité. En fait, c'est surtout ça qui est important de voir, c'est que au plus on subit les discriminations et au plus on est oppressé, eh ben, au moins on se sent légitime à intervenir et au moins du coup on se sent légitime à intégrer une association et à élever sa voix dans une association. Donc c'est vrai que il faut vraiment prendre en compte le fait que y a la société, elle produit des schémas discriminants et ce sont, en tout cas pour l'association qu'on a pu, sur laquelle on a pu enquêter, ce sont exactement les mêmes qui se produisent dans l'association. Et les femmes, par exemple, si on prend les femmes ou les personnes racisées, et c'était le cas par exemple dans un entretien que j'ai fait sur une femme qui était racisée, la personne que avec qui je faisais l'enquête, c'était une personne blanche, c'était un homme blanc, un homosexuel blanc, et il disait qu'elle prenait peu la parole, et au final, il reportait le fait qu'elle prenne peu la parole sur sa responsabilité, sans se dire que finalement, non, il y a des déterminismes sociaux, et il y a des choses qui font qu'elle ne se sent pas légitime à prendre la parole, et ça ne vient pas de sa propre responsabilité, mais c'est un système qui est fait comme ça, et du coup, il n'y a pas de remise en cause, par exemple, de sa propre position qui fait que, face au statut qu'il a, elle n'osera pas prendre la parole.
D'accord. Alors, tout ça, c'est des sujets extrêmement intéressants qui vont être abordés à la conférence. Alors, on va rappeler, la conférence a lieu où, quand, comment ?
Alors, la conférence a lieu à partir de 18h, 17h50. Les personnes peuvent commencer à se présenter en salle CR34 à l'Université Lyon 2 sur les quais. Donc, c'est 2 ou 4 bis rue de l'Université. Arrêt T1 rue de l'Université. Les personnes peuvent venir à partir de 18h. Ça durera jusqu'à 20h. On aura 4 interventions de 30 minutes. Les 4 interventions... Enfin, chaque intervention de... je vais arriver à le reprendre. 2 interventions durant 30 minutes. Voilà. Chaque intervention dure 15 minutes. Et voilà, donc ça laissera largement la place au débat et aux discussions. Et voilà, donc ça commence à 18h, ça termine à 20h. On va essayer de négocier jusqu'à 20h15, parce que je suis sûr que les conversations et les discussions seront intéressantes. Et voilà, on s'excuse déjà par ailleurs des frustrations qu'il y aura si on doit couper à un moment donné les débats. Voilà, on sera frustré aussi, on le dit. Mais ça veut dire qu'il y a aussi des choses à faire et à continuer. Et par rapport au déterminisme social que tu évoquais, j'irais juste une chose, que j'en discutais avec un collègue il n'y a pas longtemps. Tout ce qui est imaginable est possible. Et si on imagine renverser les rapports de classe, eh ben, c'est possible de le faire.
D'accord. Bon, ça sera presque le mot de la fin. Avant qu'on termine, parce que si j'ai le temps, je vous poserai encore deux questions, vite fait, parce que le temps tourne. Malheureusement, une heure, c'est un peu court parfois. Je voudrais simplement signaler un événement aussi qui aura lieu aussi vendredi, mais après le vôtre, beaucoup plus tard. Donc, on peut aller à la conférence et après participer à l'événement en question. C'est la Wet for Me. Alors, la Wet for Me, qu'est-ce donc ? Eh bien, c'est une soirée de filles organisée par le collectif Barbituris, qui est un collectif parisien de filles qui organise non seulement des soirées, mais aussi des débats et des conférences également sur le sujet de l'homosexualité féminine et du féminisme, qui ont un très beau site qui est très bien fait. Il s'appelle barbiturix.com, qui édite aussi un fanzine mensuellement, je crois. Et qui ont décidé de s'exporter en dehors du périphérique, au-delà du périphérique parisien, comme elles le disent elles-mêmes. Et donc, elles ont choisi Lyon pour présenter leur première soirée en dehors de Paris. Voilà. Donc, Lyon, ça sera au Club Transbo. C'est vendredi soir, vendredi 20 mai, donc de 23h jusqu'à 5h du matin. Donc, il y a des DJ résidentes, des soirées Wet for Me. Et puis, il y a aussi des DJs, hein, ce ne sont que des DJs invités, donc, etc., comme pour chacune de leurs soirées. Donc, ça sera au Club Transbo, boulevard Salingrad à Villeurbanne, et c'est vendredi soir. Donc, je tenais à en parler, d'autant plus que sur leur site, il y a un article très intéressant sur la vie lesbienne à Lyon, qui est très bien fait, je trouve, qui est très juste. Donc, par curiosité, allez voir barbiturix.com. Que pourrais-je rajouter avant de nous quitter ? J'avais deux petites questions à vous poser, mais il faudra répondre rapidement parce que l'heure tourne. Alors, non, même trois. La première, justement, on parle du collectif Barbiturix. Il en existe aussi à Lyon qui organise des soirées, par exemple, mais des soirées non mixtes. La semaine prochaine, je vais recevoir des personnes que j'aime beaucoup. C'est le C2L, le Centre Lesbien Lyonnais. Mais elles m'excuseront si j'inverse toujours les termes. Je crois que c'est dans ce sens-là, hein. Lesbien Lyonnais. Elles ont décidé la non-mixité. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la non-mixité ? Vous avez une minute pour répondre, mais pas une personne seulement. La non-mixité choisie.
C'est génial.
C'est génial.
Non, mais oui, elle est nécessaire. Et par exemple, aux Nuits Debout, elle est très décriée. Et il y a eu des tentatives de réunions et de groupements non mixtes. Elle est très décriée par des hommes qui se sentent du coup offusqués de ne pas pouvoir participer. Mais il faut savoir que c'est dans un contexte où les femmes peuvent moins s'exprimer, prennent moins la parole quand elles sont face à des hommes, où parfois il y a des besoins de se retrouver pour parler de ces oppressions ou pour parler de choses qu'on ne peut pas faire quand il y a des hommes. Et par exemple, il y a aussi une volonté de se réapproprier des espaces qui souvent sont consacrés aux hommes. Et il ne faut pas le voir comme une fin en soi, mais comme une utilité à un moment donné dans un combat militant.
Très bien. Alors, la suite de mes questions, il faudra répondre aussi rapidement, si succinctement, mais aussi complètement que Louise. Je vais vous parler de d'un symptôme, simplement un symptôme qui peut être un symptôme donc de cette idéologie de l'homonationalisme, le pinkwashing. Le pinkwashing, et moi je pense tout de suite, qui veut parler du pinkwashing ?
Alors déjà, parlez-en-nous. Voilà,
qu'est-ce que c'est ? Eh bien, exemple, le pinkwashing d'Israël par rapport à la Palestine. Tel Aviv qui est vendu, présenté comme, sans entrer dans le débat conflit israélo-palestinien, Tel Aviv qui se vend comme une ville ouverte, une ville LGBT, une ville gay qui organise une grande gay pride auquel sont invités des journalistes du monde entier. Pour dire, voilà, regardez, nous, la société israélienne, c'est ça le pinkwashing. Hein, ça fait partie, c'est un des symptômes.
C'est la mise en
valeur. C'est le lavage à rose, en fait. On dit, voilà, en application de cette. Beaucoup disent que Tel Aviv, la Gay Pride, la vitrine de Tel Aviv, c'est du pinkwashing. C'est donc que ça rejoindrait cette idéologie de choc des civilisations entre les bons et les mauvais. En disant, regardez, les Palestiniens, eux, persécute les homosexuels, venez en Israël, à Tel Aviv, vous serez libre d'aller sur des plages, montrer vos muscles, vous faire bronzer, d'aller en boîte, vous amuser. En gros, c'est ça.
C'est Ethan Fox, dans ses films, qui d'ailleurs parle à chaque fois, sous couvert du conflit israélo-palestinien, d'amour impossible entre un Palestinien et un Israélien. Et voilà. Et je crois que, oui, effectivement, alors déjà, on voit qu'en Israël, c'est pas toujours simple de vivre son homosexualité, premièrement, contrairement à l'image qui peut être vendue. Et deuxièmement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un exemple de l'homonationalisme. C'est-à-dire qu'on va faire jouer une minorité sexuelle pour, la minorité sexuelle en l'occurrence, pour essayer de stigmatiser une autre.
Il est quand même vrai qu'on a tout de même l'impression qu'il est plus facile de vivre son homosexualité à Tel Aviv qu'à Jérusalem, en tout cas, qui est aussi une ville en Israël. Je sais pas, parce que Jérusalem, c'est le côté religieux, les trois religions dont nous parlions, qui sont représentées, on imagine. Tel Aviv, c'est vraiment une vitrine, c'est un peu le San Francisco, le Amsterdam du Proche-Orient. Hein. C'est vraiment, ils vendent ça comme prospectus publicitaire, etc. Ils invitent, comme je le disais, à la Gay Pride, les journalistes du monde entier pour dire « Venez voir, nous, Israéliens, comme nous sommes ouverts ». Nous défendons les valeurs de l'Occident.
Et c'est toujours bien d'aller au-delà de l'image.
Voilà. Arthur, et puis une dernière chose. Alors moi, c'est juste... on va en subiter. Je ne sais pas, vous avez entendu parler de Pim Fortuyn. Il a été assassiné. C'est un leader hollandais, donc néerlandais, d'extrême droite, qui a été assassiné, je crois, il y a une vingtaine d'années. Je ne suis plus sûr de la date. Il s'appelait Pim Fortuyn, qui était donc de l'extrême droite, qui était le leader de l'extrême droite aux Pays-Bas, et qui disait que les Arabes, c'est bien, mais dans son lit. Mais pas ailleurs. Est-ce que c'est pas le comble de l'homonationalisme, ça ? Pas d'opinion là-dessus ? C'est aussi un dessin.
Je pense que ça se passe de commentaires. C'est, voilà, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'on disait sur l'érotisation, la fétichisation, où on va faire des fétiches des personnes racisées et on va les consommer sexuellement comme des objets.
Comme tu dis souvent sur l'exotisation, du coup, Oui, d'autres personnes, enfin, ou des personnes en tout cas racisées.
Je rappellerai que Pim Fortuyn était gay, évidemment, il parlait des Arabes hommes.
Hein. Oui, bien sûr, bien sûr.
Ça rejoint un peu aussi le FN, un leader gay d'un groupe Front National, c'est un peu ce qu'on disait, d'un groupe d'extrême droite en tout cas, fascisant, d'extrême droite, tout ce qu'on... Merci beaucoup.
Excellent exemple.
Merci d'être venu. Je rappellerai tout ce qu'il faut concernant l'événement de vendredi soir, donc la conférence débat homo-nationalisme. C'est un véritable exercice de diction. On n'a plus beaucoup de temps. Je pense que j'ai même pas mis l'horloge. Ah ben.
Pluriel.
Merci les garçons.